Deux prochaines dates en Suisse romande sera le 1er novembre à l'espace Vélodrome à Plan-les-Ouates et puis le 3 novembre au Théâtre du Martelet à Saint-Maurice.
On est au pied du glacier du Rhône, un endroit assez iconique. Le glacier du Rhône donne naissance au fleuve du Rhône, à la fin du compte aussi au lac Léman.
Et en bas, on voit une petite rivière, c'est le bébé Rhône.
Voilà, ça c'est le bébé Rhône qui se verse du lac qui s'est formé ici au pied du glacier de Rhône. Et ça c'est vraiment la source du Rhône.
Rebonjour Macamis.
Bonjour.
Eh bien, c'est vous qui êtes remonté le long du Rhône jusqu'au glacier, justement, qui nous rapportait ce reportage.
Oui, et la voix que nous entendions à 2300 mètres d'altitude, c'est celle de Tom Battin, professeur à l'EPFL, directeur du laboratoire pour la recherche sur les biofilms et les écosystèmes fluviaux. Et si je me suis rendu là-bas, c'est parce que Tom Battin et son équipe initient un projet pour percer les mystères de la vie microbienne des glaciers. Alors, ils sont remontés jusqu'à la source du Rhône pour mieux remonter dans le temps, et on le verra, pour se tourner aussi vers le futur. Et c'est un projet d'ampleur mondiale. On le sait, hein, partout dans le monde, les glaciers disparaissent. Alors, il est urgent de les étudier, parce que ces glaciers sont formés d'eau, certes, mais aussi de micro-organismes, des bactéries, des algues, habituées à des conditions extrêmes et qui sont à la base de tous les écosystèmes qui sont en aval de ces glaciers. Alors seulement si on connaît assez bien la diversité microbienne du fond des océans ou bien celle des pôles, curieusement, la vie qui prolifère dans les ruisseaux des fontes des glaciers est moins connue, moins étudiée. Alors on retrouve Tom Battin.
On voit très bien la couleur de l'eau dans ce lac, cette couleur un peu blanchâtre, c'est la couleur farineuse, ça sont les sédiments très très fins qui proviennent de l'action du glacier sur les roches. Ça c'est quelque chose de typique, ça donne la couleur typique au Rhône. Ce qu'on voit d'ailleurs aussi, là, les roches, dans la source du Rhône déjà, les roches qui sont exposées à l'eau ont une couleur assez particulière. C'est un peu le verdâtre, le brun, et ça sont des micro-organismes.
Mais quand on voit cette eau qui sort comme ça, on pense qu'elle est stérile, et en fait, elle ne l'est pas.
Ah non, c'est loin d'être stérile, et l'eau ici est typiquement, je dirais que la moyenne annuelle de cette eau, c'est 2 degrés, et cette eau n'est pas du tout stérile. Dans l'eau même, il y a des bactéries, il y a des algues, il y a même des virus. Nous, on s'intéresse surtout à cette vie microbienne sur les rochers mêmes. Alors, pas tellement dans l'eau, mais sur les surfaces des sédiments, sur les surfaces des minéraux. Et cette vie microbienne, on l'appelle les biofilms.
Pourquoi elle est si intéressante que ça, cette vie microbienne?
Dans tous les écosystèmes, il faut s'en rendre compte que la vie microbienne sur Terre, c'est la machinerie des grands cycles, des grands flux biogéochimiques. Ce sont les bactéries dans l'eau, dans le sol, dans la glace même, sur la glace. Ça sont les bactéries qui font qu'il y ait un cycle de carbone, qu'il y ait un cycle d'azote, qu'il y ait des flux de phosphore, etc., etc. Et notamment dans les ruisseaux, ces bactéries ou ces microbes, ces biofilms ont un rôle très très important. Ce sont notamment ces biofilms qui font que l'eau soit propre. Alors ça, c'est vraiment la machinerie de l'autopurification de l'eau dans les ruisseaux. Sans la vie microbienne dans le ruisseau, il n'y aurait pas d'autres organismes dans le ruisseau même ou dans le fleuve. Et il faut comprendre que ce sont notamment ces micro-organismes qui forment la base de la vie. Aussi, sans ces micro-organismes, il n'y aurait pas des petits insectes. Sans ces petits insectes, il n'y aurait pas de poissons, par exemple. Donc, ces bactéries sont vraiment à la base de la chaîne alimentaire dans les ruisseaux ou dans les lacs.
Oui, donc des micro-organismes qui sont très importants, mais vous l'avez dit, qu'on commence à peine à étudier.
Oui, et on étudie plus précisément les biofilms qui s'installent dans le ruisseau qui sort du glacier. Alors un biofilm, c'est une véritable communauté de micro-organismes qui s'organisent dans une substance un peu gluante, hein, qu'on a tous vu au bord des cours d'eau, ou même quand on met le doigt dans un tuyau d'arrosage, par exemple. Alors ces communautés microbiennes, ce sont de véritables petites villes. On ne sait pas vraiment comment elles s'installent dans des endroits aussi improbables, et comment comment les bactéries et les algues ont fait pour s'adapter à ces conditions aussi extrêmes. Les chercheurs donc de l'équipe constituée par Tom Batin cherchent donc à comprendre les stratégies mises en place par cette vie invisible, invisible à l'œil nu. Elles cherchent aussi à remonter le temps et à voir aussi comment ces organismes évolueront dans le futur et s'adapteront à la disparition des glaciers. C'est donc au glacier du Rhône que débute ce projet, mais l'idée est, sur 3 ans, de visiter des glaciers un petit peu partout dans le monde pour prélever des échantillons de biofilms et en étudier la composition. Alors évidemment, pour un projet d'une telle ampleur, il ne faut pas seulement des microbiologistes. On va retrouver quelques centaines de mètres en aval du glacier, Michael Zemp. Il est directeur de l'Observatoire mondial des glaciers à l'Université de Zurich. Je l'ai retrouvé à un endroit de la vallée du Rhône qui porte les premières cicatrices, hein, vraiment les premières blessures dues au changement climatique. Et je me suis baladée avec lui au bord de la rivière.
Là, on est plus bas dans la vallée. C'est jusqu'ici que le glacier s'est étendu pendant le Moyen. Et la taille maximale qu'il a eue, c'était en 1856. Et nous marchons vers cette moraine. On voit les traits, presque comme des murs dans le paysage. C'est la moraine, ces débris rocheux poussés par le glacier. On voit ces belles séries de moraines, ces débris qui datent de 1400 au Moyen Âge, ceux de 1700 et ceux des années 1860. Later in the high Middle Ages
and then 1700 and 1800 and 60. Avec le changement climatique, ce glacier recule plus vite.
Oui, le glacier avait commencé à reculer de 240 mètres entre le Moyen-Âge et les années 1800. Là, on ne voit plus le glacier. Le lac du glacier est derrière cet escarpement assez raide. Il se retire encore, mais à une vitesse de 10 à 15 mètres chaque année.
Il va disparaître.
Ça dépend comment nous gérons le problème du changement climatique. Même si nous stoppons toutes les émissions de gaz à effet de serre, maintenant, le glacier n'est plus en équilibre avec le climat actuel. Il se retirera, je dirais, de 1 à 2 km jusqu'à ce que sa taille corresponde au climat actuel.
Actuellement, il fait quelle taille, ce glacier ?
14 000 km carrés en taille sur une longueur d'environ 10 km.
La situation du glacier du Rhône, elle est symptomatique de tous les autres glaciers dans le monde ?
Oui, on peut dire ça. Et c'est un symbole du changement climatique et son impact. Il faut quand même dire que les Alpes européennes, et les Alpes suisses en particulier, sont en fait une des régions les plus affectées par le changement climatique. La température mondiale a augmenté d'un degré en 150 ans, mais nous ici, on constate que c'est plutôt 2 degrés dans les Alpes suisses. On est dans la région qui a perdu le plus de glace. Depuis le petit âge glaciaire, nous avons perdu la moitié de notre volume de glace.
D'où l'urgence d'étudier ces glaciers. Vous, vous êtes glaciologue. Quel va être votre apport dans ce projet ?
Ce projet est très intéressant, il est interdisciplinaire, il regroupe des scientifiques de différents bords, biologistes, glaciologie et des équipes d'expédition. Notre rôle de glaciologue est de faire en sorte de choisir 200 glaciers sur un total de 200 000 glaciers dans le monde.
C'est quoi le glacier idéal pour votre étude alors ?
Nous allons l'apprendre au début du projet. Les microbiologistes sont intéressés par les ruisseaux et la vie microbienne, donc ils nous diront quels sont les sites idéaux pour eux, quelle serait la taille idéale du glacier, les flux d'eau qui en sortent, la quantité de sédiments qu'ils souhaitent avoir dans les ruisseaux. C'est sur ces critères que nous allons sélectionner les glaciers autour du monde. Mais ce n'est qu'un aspect, il y a aussi l'aspect important de la logistique. Si vous voulez analyser 200 glaciers dans le monde, ils doivent être accessibles facilement. Vous ne pouvez pas passer des jours et des jours en expédition parce que vous devez ramener les échantillons. Donc, grâce à notre réseau de monitorage des glaciers dans le monde, nous pouvons les aider. Nous avons un réseau d'environ 1000 personnes qui observent les glaciers autour du monde. Les glaciologues locaux peuvent aider les scientifiques au niveau logistique, mais leur fournir aussi leurs observations et leur donner des éléments pour modéliser le comportement de ces glaciers dans le futur.
Vous allez faire le tour de la planète ?
Vous passez par où ?
Ce qu'ils cherchent, c'est de trouver des glaciers le long d'un gradient environnemental. Prenons l'exemple des Andes. Vous voulez aller des tropiques en Colombie jusqu'aux zones subtropicales au Pérou, jusqu'en Patagonie. Ou vous pouvez aller en Europe, en Scandinavie, sur des glaciers enfouis sous 10 mètres de neige, et descendre le long de la Suède dans des zones plus continentales, vers des glaciers se trouvant seulement sous 50 cm de neige durant l'hiver.
Je crois que le prochain projet est en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande ?
Probablement pour une raison très pratique. Durant notre hiver, c'est l'été là-bas, donc on peut commencer tout de suite le projet. Donc si on veut étudier un maximum de glaciers en 3 ans, il faut commencer en été ailleurs dans le monde. Tiens, pendant qu'on parle, on vient de passer la moraine du petit âge glaciaire. C'est cette petite colline juste là. C'était là où le glacier finissait sa course en 1856. On a traversé la moraine. Michael Zempf, glaciologue de l'Université de Zurich, qui était à votre micro, Macamis. On rappelle que Michael Zempf participe à un projet qui vise à étudier les microbes qui peuplent les eaux, dont les ruisseaux, juste à la sortie des glaciers. Des micro-organismes qu'on connaît mal et qu'il est quand même important d'étudier avant que les glaciers fondent. Alors jusqu'ici, on s'est déjà bien rendu compte de la grosse logistique qu'il faut pour étudier donc ces biofilms, ces couches visqueuses formées par les micro-organismes. Les scientifiques vont donc prélever ces bactéries, ces algues, sur 200 glaciers autour du monde. Mais Oumar, franchement, comment est-ce qu'ils s'y prennent concrètement pour récolter ces micro-organismes ?
Eh bien, au cours de ma balade avec Michael Zempf, j'ai rejoint le camp de base des scientifiques qui feront les prélèvements. L'équipe de l'expédition s'entraîne au bord du Rhône et fait aussi les premiers prélèvements. J'y ai retrouvé Hannes Peter, spécialiste en écologie microbienne, et on rencontrera aussi en cours de route Vincent de Sterck, alpiniste et biologiste, qui aura la chance de se rendre sur le terrain. Alors, juste par camp de base, il faut vous imaginer 2 tentes igloos, des glacières et quelques boîtes de matériel, le tout à côté du Rhône, à quelques centaines de mètres en aval du glacier. De loin, si on fait un peu abstraction d'un conteneur d'azote liquide et de quelques appareils pour mesurer la température et les paramètres chimiques de l'eau, le campement fait franchement penser à celui des chercheurs d'or. Mais le trésor qui intéresse Hannes Peter est un petit peu différent.
We use these sieves. Okay, to sample sediment of a certain grain size, okay?
On utilise des tamis pour faire passer le sédiment d'une certaine taille. Là, par exemple, les petites pierres au fond du tamis font entre 1 et 2 mm de diamètre. Et les bactéries colonisent la surface de ces petites pierres. Ces petits cailloux sont faciles à manipuler pour nous. On peut les transférer dans des tubes et on peut faire en sorte de décoller les cellules vivantes des pierres. Sur les pierres les plus grandes, vous pouvez voir le biofilm, mais c'est plus facile de prélever des petits graviers. Le biofilm, c'est cette substance visqueuse qu'elle sécrète pour se fixer aux pierres et pour se protéger des conditions environnementales. On voit qu'il n'y a pas que des bactéries, mais aussi des algues. En fait, si vous regardez autour, vous voyez cette couleur brune sur les gros cailloux. Ce sont principalement des diatomées. Elles sont une part importante de ces biofilms. Dans cet échantillon de sédiments de sable que je viens de prélever, j'ajoute un produit chimique pour préserver les bactéries. Au retour dans le laboratoire à Lausanne, on va colorer les bactéries grâce à une machine appelée cytomètre en flux. C'est un appareil avec un laser qui peut compter les bactéries d'une manière très précise. On peut compter près de 1000 bactéries par seconde. En faisant cela, nous aurons une idée de combien de bactéries colonisent cette petite surface de gravier. À partir de là, on saura combien de bactéries et d'algues vivent à cet endroit précis du Rhône. Là, je mets l'échantillon dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. L'ADN, le matériel génétique, est très bien préservé. Mais pas seulement l'ADN, l'ARN et les protéines également. Ce sont des molécules importantes que nous allons étudier par la suite.
Le but, c'est d'étudier les micro-organismes qui viennent du glacier. Pourquoi ne pas prendre directement les échantillons dans le glacier ?
En fait, on étudie le ruisseau depuis ici jusqu'en amont, où il quitte le lac du glacier. Là, on est au point le plus bas. Vous avez vu la moraine qui marque l'endroit jusqu'où le glacier est descendu au maximum. On sait que c'était autour de 1860. Donc, on a une date de référence. De là, on remonte le courant pour aller de plus en plus près du glacier. Avec ça, on peut couvrir un gradient de temps entre 1860 environ jusqu'en 1920, par exemple, puis 1980. Bref, jusqu'en 2018, où on trouve le glacier actuellement.
All the way up at the glacier. So one idea is of course to study.
Donc une des idées, c'est d'étudier cette séquence dans le temps pour chaque glacier, si on connaît la date où il a commencé à reculer. Mais on peut aussi comparer les différents glaciers entre eux. Si un glacier est plus petit, cela nous donnera une idée de ce qui se passera. On a un scénario du futur et en s'approchant du glacier, on remonte le temps.
Comment vous savez que les micro-organismes que vous prélevez proviennent bien du glacier?
On essaie de travailler de la manière la plus propre et stérile possible. Notre équipement de prélèvement est stérilisé entre différents prélèvements. Et puis, il y a aussi des outils bioinformatiques qui peuvent identifier les contaminations potentielles.
Vous vous attendez à trouver des nouvelles espèces ?
Très certainement, oui. Typiquement, le microbien à l'aval des glaciers n'est pas très bien décrit. Donc, on va très certainement trouver des espèces inconnues.
Est-ce que vous pensez que les communautés microbiennes qui habitent sur ces différents glaciers se ressemblent ?
Je dirais que oui. Ces conditions environnementales dans les ruisseaux, nourris par des glaciers, sont très dures. Les températures sont basses, il y a peu de nutriments, on est en altitude, il y a beaucoup de rayons UV, et il y a aussi beaucoup de fluctuations du niveau de l'eau. En fait, pendant la nuit, quand le glacier est plus froid et gèle, le niveau d'eau dans le ruisseau descend. Et pendant la journée, il y a beaucoup plus d'eau. Et tout ceci a probablement été un facteur de sélection pour les communautés de micro-organismes adaptées à ces conditions extrêmes. Donc je m'attends à ce que ces communautés soient très similaires près des glaciers autour du monde.
Ils viennent d'où ces micro-organismes ?
Ils sont là depuis ce que l'on appelle la Terre boule de neige, à une époque où la Terre entière était recouverte de glace. Donc ils sont là depuis bien plus longtemps que ce qu'on pense.
Alors moi, c'est Vincent.
Vous êtes une des deux personnes qui a établi son camp de base au bord de ce bébé Rhône. C'est un petit Rhône.
C'est le début du Rhône. Moi, mon rôle, ce sera de partir sur le terrain, récolter les échantillons qui seront ensuite envoyés à Lausanne pour l'analyse, avec Mathéo et Mike. Donc on sera trois, la team d'expédition.
Mm-hmm. Alors là, vous avez une glacière.
Donc ça, c'est une glacière, c'est pour stocker... Donc là, je vais prélever de l'eau et on va ensuite analyser la teneur en carbone qu'il y a dans cette eau.
Qu'est-ce qu'elle vous donne comme information, cette teneur en carbone ?
Ça va nous informer sur le métabolisme des bactéries.
Le fait qu'elles sont en vie, en fait.
Elles sont en vie, exactement. Ouais. Il faut rincer la fiole.
Donc c'est une grosse seringue, on fixe un filtre au bout.
Ça permet de vraiment obtenir le carbone qui est dissous dans l'eau. On s'intéresse au carbone dissous, donc les carbones en particules, on s'y intéresse. Il faut juste encore rincer un peu la fiole avec de l'eau filtrée, cette fois-ci, pour être sûr vraiment que l'échantillon soit de bonne qualité. Parce que... Au total, il y aura 25 sites par région, avec 3 ou 4 postes par glacier. Et donc, des échantillons d'eau comme ça filtrés, il y en a 3 différents. Pour 3 types d'analyses différentes, et on fait 3 réplicas à chaque fois, donc ça fait déjà 9. Et ensuite, il y a les analyses d'ammonium et aussi de phosphore. Donc.
Combien de litres d'eau vous avez calculé ?
On a calculé.
Alors, ce matin, j'ai rencontré plein de vos collègues, un glaciologue, des spécialistes de vie microbienne. Un chimiste, c'est très interdisciplinaire.
Voilà, nous on travaille notamment à l'interface entre l'écologie microbienne avec les géosciences et aussi les sciences environnementales. C'est à cause de ça qu'ils me font un team interdisciplinaire.
Alors plus surprenant, votre équipe va être complétée par une spécialiste de la flore intestinale humaine, du microbiome humain.
Absolument. Bah, tout d'abord, moi, j'aime bien comparer les ruisseaux avec l'intestin. L'intestin est colonisé par des milliers de bactéries. Hein, et c'est la même chose dans un ruisseau, par exemple. Vous avez un transport unidirectionnel de matière, de l'eau, etc., etc. Et c'est la même chose dans l'intestin. Non, mais maintenant, pourquoi j'aime bien travailler avec un spécialiste sur le microbiome de l'intestin, c'est ces collègues-là ont développé pendant les dernières 10 ans, par exemple, des méthodes en biologie moléculaire très très poussées et surtout en bioinformatique. Et moi, je crois que c'est très important pour nous, travaillant en sciences environnementales, d'apprendre des autres sciences, d'apprendre des autres disciplines. Cet expert, lui, il travaille sur les interactions entre les bactéries et l'hôte, donc l'être humain. Ce que nous, on va faire, on va travailler sur les interactions des bactéries et les algues dans les biofilms. Donc, lui, il a déjà des expertises ou un petit coffre avec des expertises qu'il peut bien transférer sur nos questions.
Ces analyses de vie microbienne vont vraiment permettre de remonter le temps. Jusqu'où on va remonter ?
Ça dépend tout d'abord un peu de la qualité de nos échantillons. Ça va dépendre de du séquençage notamment. Mais l'idée, c'est de remonter en temps quelques centaines de milliers d'années au moins. On va travailler sur la phylogénie plutôt classique, mais comme on va faire ce qu'on appelle la métagénomique, on va être capable de voir quels sont les gènes, quel va être le répertoire génétique de ces bactéries qui sont particulièrement bien adaptées à cet environnement extrême un peu aux quatre coins du monde. Et puis, on va travailler sur la phylogénie de certains gènes fonctionnels. Et ça, c'est là. Et c'est à travers de cette phylogénomique qu'on espère même être capable de reconstruire ce qu'on appelle en anglais un « most common ancestor ».
Tom Batin, directeur du laboratoire pour la recherche sur les biofilms, les écosystèmes fluviaux, et puis toute son équipe qui va partir à l'assaut de 200 glaciers du monde pour étudier les micro-organismes qui peuplent les ruisseaux, pour remonter peut-être le temps jusqu'à un ancêtre commun.
Oui, ça serait aussi notre ancêtre commun par ailleurs. Oui. Et puis le but, c'est aussi d'avancer dans le temps. Tous les échantillons prélevés au cours du projet seront aussi congelés pour les générations futures. Parce qu'on sait aujourd'hui que les techniques et les méthodes de biologie moléculaire évolue très très vite, donc des nouvelles analyses permettront peut-être à l'avenir d'obtenir des nouvelles molécules, qui sait, peut-être qu'un jour on découvrira de nouveaux antibiotiques ou d'autres molécules intéressantes pour nous. Un héritage laissé aujourd'hui par des glaciers en voie d'extinction. Ils sont pas très très rancuniers, ces glaciers.
Non, je les trouve même plutôt sympas. Allez, à la recherche des micro-organismes des glaciers. C'était votre reportage, Oumakamis, à bientôt.
À bientôt.